Bon, que se passe-t-il quand l'un des auteurs les plus sacrés de l'histoire semble, genre, faire une erreur de copier-coller monumentale, et ça dès la toute première page de son livre?
Ouais, c'est vraiment une question qui fâche.
Mais oui, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on ouvre l'évangile selon Marc. L'auteur écrit noir sur blanc qu'il cite le prophète Ésaïe, mais la phrase qui suit appartient en fait à un tout autre prophète. C'est Malachie.
C'est ça. Et pendant des siècles, il y a des lecteurs qui ont buté sur ce passage en se disant que c'était juste une étourderie, quoi, une grosse erreur.
Complètement. Sauf qu'en plongeant dans la mécanique de la littérature ancienne, on se rend compte que ce qui ressemble à une erreur de débutant, c'est en fait un outil littéraire d'une sophistication mais vertigineuse.
Ah oui, c'est pas juste du hasard, c'est sûr.
Donc aujourd'hui, on explore une conférence académique vraiment fascinante, du docteur Matthew S. Harmon. Ça s'intitule « L'utilisation de la Bible par la Bible, session 2 ». Et la mission de notre analyse, de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de décoder comment tous ces textes anciens communiquent entre eux.
Comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, ouais.
Voilà. Comment ils forment une espèce de toile ultra complexe de références croisées. Alors bon, décortiquons tout ça, parce que cette session, elle promet de changer radicalement la façon dont on lit n'importe quel texte complexe, en fait.
Ouais, et ce matériel, qui est tiré du chapitre 4 du livre d'Harmon, il nous plonge dans une véritable enquête littéraire. Parce que l'idée, c'est pas juste de lire une phrase, de fermer le livre et de s'arrêter là.
Ah non, ce serait trop facile.
Ah ouais. Il faut comprendre que chaque citation cache des couches et des couches de signification qui se sont accumulées au fil des siècles. Les auteurs bibliques ne composaient pas dans le vide, ils écrivaient pour une communauté qui était déjà, tu vois, complètement immergée dans des textes antérieurs.
Il baignait dedans depuis l'enfance.
Exactement. Et pour déchiffrer cette mécanique, Harmon propose de maîtriser d'abord les outils de base de l'enquêteur, et il parle de deux dimensions fondamentales, le contexte horizontal et le contexte vertical.
Ouais, alors, le contexte horizontal, pour clarifier un peu, c'est la dimension la plus intuitive, je dirais, quand on lit un livre. C'est tout bêtement regarder ce qui se passe à gauche et à droite de la phrase qu'on est en train de lire sur la page.
C'est le voisinage, quoi.
Voilà, le voisinage littéraire immédiat. Si on isole un verset, son contexte horizontal, c'est les phrases autour, c'est le paragraphe, le chapitre, le livre en entier. Harmon mentionne même l'importance de la section canonique du livre. Et ça, c'est peut-être un terme qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes.
Ouais, carrément. La section canonique, en fait, ça fait référence à l'organisation globale de la bibliothèque biblique. Par exemple, si on prend la tradition juive, l'Ancien Testament est divisé en trois grandes sections. Il y a la Torah, donc la loi, ensuite les Névi'im, qui sont les prophètes, et les Ketuvim, les écrits, comme les psaumes ou les proverbes.
C'est pas tout mélangé au hasard.
Non, c'est très structuré. Et savoir dans quelle section canonique un texte se trouve, ça donne tout de suite une couleur spécifique à la manière dont on doit le lire. Tu vois, on ne lit pas une loi du Lévitique avec les mêmes attentes qu'un poème ou qu'une chronique royale. C'est ce qui constitue le paysage de base, l'environnement direct du texte.
D'accord, mais la dimension qui, pour moi, donne vraiment le vertige dans cette analyse, c'est le contexte vertical. C'est la profondeur temporelle. Lorsqu'un auteur biblique fait allusion à un texte plus ancien, il crée un fil invisible à travers l'histoire, en fait.
C'est exactement ça.
Et le docteur Harmon, il utilise cette analogie que j'adore, celle d'une boule de neige qu'on lâche au sommet d'une montagne. Au début, le texte, ou la boule, est minuscule. Mais en dévalant la pente, à travers les siècles, la boule amasse de plus en plus de neige. Et du coup, elle gagne en masse, en force, en signification.
Elle devient énorme en arrivant en bas, ouais.
C'est ça, et ça rappelle beaucoup, pour prendre une référence plus pop culture, la mécanique des univers cinématographiques interconnectés, genre les films de super-héros.
Ah oui, c'est une excellente comparaison, ça illustre parfaitement le mécanisme. Parce que quand un auteur biblique cite un texte ancien, en fait, il fait pas juste citer des mots, il importe toute la charge émotionnelle et théologique de ce texte dans sa propre histoire.
Comme dans les films, quoi.
Voilà. Si on prend une franchise de films qui dure depuis des années, si un personnage prononce une phrase toute simple dans, je sais pas, le 10e volet de la saga, le spectateur qui débarque, il va juste voir un sens basique au premier degré.
Il va se dire, ah tiens, une réplique sympa.
C'est ça. Mais pour le public qui suit l'univers depuis 10 ans, cette seule petite réplique, elle porte tout le poids des tragédies, des sacrifices, des victoires des films précédents. Le contexte vertical, c'est pas juste un clin d'œil esthétique ou un petit easter egg caché pour les fans.
Non, c'est pas juste pour faire joli.
Non, c'est un moteur qui construit activement le sens du texte que tu es en train de lire.
Ce qui pose quand même une question pratique hyper fascinante. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un film ou qu'on lit un livre, on met sur pause, on va sur Wikipédia, on tape la référence sur notre téléphone pour vérifier la connexion, quoi.
On triche un peu, oui.
Ouais, on a tous les outils, mais les audiences antiques, elles n'avaient pas de Bible imprimée avec des notes de bas de page sous la main. Elles n'avaient pas de moteur de recherche pour vérifier ces fameuses connexions verticales.
C'est vrai. Et c'est là qu'il faut absolument se rappeler qu'on parle d'une culture de l'oralité, d'une culture de la mémorisation communautaire. C'est un monde complètement différent du nôtre.
Ils apprenaient tout par cœur.
L'hyperlien, il n'était pas sur un écran. Il était gravé dans la mémoire de l'auditeur. Donc, dès qu'un prophète ou un auteur balançait une combinaison spécifique de, disons, 3 ou 4 mots-clés, bam.
Ça faisait tilt.
Ça déclenchait immédiatement une association mentale chez ceux qui écoutaient. Le réseau s'activait en direct dans leur esprit.
Bon, alors testons cette théorie sur le terrain. Voyons un peu comment cette accumulation de sens fonctionne en pratique. Parce que l'analyse propose un dossier historique hyper célèbre pour illustrer ça. C'est la chute du roi Salomon.
Ah oui, un classique.
Ouais. Donc, dans le premier livre des rois, chapitre 11, le texte décrit la fin du règne de Salomon. Et il y est écrit qu'il a eu 700 épouses de rang princier, 700, et 300 concubines, des femmes moabites, ammonites, édomites, bref. Et le récit conclut de manière assez sombre en disant que lorsqu'il fut vieux, ses femmes ont détourné son cœur vers d'autres dieux.
C'est une fin tragique, oui.
Voilà. Et si on s'arrête strictement au contexte horizontal, on se dit, bah, on lit simplement la chronique d'un déclin géopolitique, quoi. C'est la chute d'un vieux souverain qui perd un peu la tête à cause de son entourage et qui cède à la pression de ses alliances politiques.
Et l'auteur du Livre des Rois aurait pu s'arrêter à ce constat géopolitique. Mais le choix très spécifique des détails démographiques et géographiques, ça active immédiatement le fameux contexte vertical dont on parlait.
C'est pas juste des chiffres pour impressionner.
Non, pas du tout. Le texte repose en fait sur l'architecture de 3 lois anciennes qui se trouvent dans le Deutéronome. D'abord, il y a le chapitre 7 du Deutéronome qui interdisait formellement les mariages mixtes avec certaines nations environnantes. Et pourquoi ? Précisément parce que la loi prévenait que ça allait conduire le peuple à adopter d'autres divinités.
Et c'est genre exactement, mot pour mot, la trajectoire que suit Salomon dans le récit.
C'est clair. Et ensuite, on a Deutéronome 17 qui est fondamentalement le cahier des charges de ce que doit être un bon roi d'Israël.
Le manuel du parfait monarque.
Ouais, voilà. Ce texte stipule qu'un roi ne doit pas accumuler les chevaux, il ne doit pas accumuler l'or, et surtout, il ne doit pas multiplier le nombre de ses épouses de peur que son cœur ne s'égare. C'est les mots exacts. Donc, en listant ce chiffre astronomique de 700 épouses et 300 concubines, le narrateur, il fait pas juste de la comptabilité.
Ouais, il montre que Salomon, il franchit pas juste la ligne jaune, il la pulvérise. C'est absurde logistiquement parlant.
Exactement. Il explose les règles. Et enfin, le coup de grâce de ce passage, il vient de Deutéronome 23, combiné au Livre des Nombres, chapitres 22 à 24. Ces passages, ils interdisent de manière ultra spécifique l'entrée des Ammonites et des Moabites dans l'Assemblée d'Israël.
À cause d'une vieille trahison, c'est ça ?
Oui, en raison de leur trahison historique à l'époque où les Israélites traversaient le désert.
Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. L'argument inverse, ce serait venir que l'auteur de Un roi, il fait juste son job de chroniqueur neutre. Il relate des faits historiques avérés, tu vois. Genre, Salomon a fait des alliances politiques avec des pays voisins via des mariages diplomatiques, et il a logiquement construit des hôtels pour les dieux de ses femmes pour des raisons de diplomatie. Est-ce qu'on risque pas avec cette méthode de suranalyser le texte en affirmant que l'auteur essaye consciemment d'activer toutes ses lois mosaïques juste pour faire un réquisitoire théologique ?
C'est une objection super valide, mais pour prouver cette intentionnalité de l'auteur, il suffit en fait d'observer comment les auteurs ultérieurs ont lu ce même récit. Et là, on a une preuve flagrante avec le livre de Néhémie au chapitre 13.
Qu'est-ce qui se passe dans Néhémie ?
Eh bien, c'est une démonstration éclatante de ce réseau textuel en pleine action. Des générations et des générations après Salomon, Néhémie se retrouve confronté à un peuple qui recommence à épouser des femmes d'Ammon et de Moab. Et pour condamner fermement ces mariages, Néhémie cite explicitement l'échec de Salomon comme avertissement moral.
Hein, donc il fait le lien lui-même.
Oui, il s'appuie sur le texte de Un roi, il le relie aux lois du Deutéronome sur les Ammonites et les Moabites, et il s'en sert carrément de jurisprudence pour imposer sa propre réforme. Donc ça prouve qu'aux yeux des auteurs bibliques, le récit de Salomon n'a jamais été une simple chronique historique neutre. C'était la description d'une violation consciente, systématique, d'une architecture légale précise. Quand on mentionne les mots habitent, c'est pas de la géographie, c'est l'équivalent d'une alarme rouge qui retentit dans la tête du lecteur.
Ouais, ça clignote de partout. Bon, si ces textes s'empilent avec une telle logique implacable dans l'Ancien Testament, ça nous ramène à notre grosse question du début. Que se passe-t-il quand un auteur a l'art de complètement s'en mêler les pinceaux ?
L'erreur apparente, oui.
Ce fameux passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 1. Marc ouvre son livre et annonce fièrement. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, et bim, il enchaîne avec la citation. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. » Et comme on l'a dit, ce n'est qu'après cette phrase qu'il cite effectivement Ésaïe. La première phrase avec le messager, elle vient du prophète Malachie.
Et c'est là que la magie opère. En appliquant notre fameuse grille de lecture du contexte vertical, ce nœud qui a frustré tant de lecteurs, il se démêle de manière spectaculaire. Marc ne fait pas d'erreur. En fait, il expose le réseau.
Comment ça, il expose le réseau ?
Eh bien, la citation de Malachie 3.1, elle s'inspirait déjà d'Ésaïe 40. Quand Malachie parle d'un messager qui prépare le chemin, il utilise délibérément, consciemment, le vocabulaire et les concepts d'Ésaïe. Et le truc de fou, c'est que, pour creuser encore plus loin, Ésaïe 40 s'inspirait lui-même déjà d'un texte fondateur de l'Exode, au chapitre 23.
Ah oui, le passage de l'Exode où Dieu promet d'envoyer un messager pour guider le peuple dans le désert et préparer la route vers la terre promise.
Exactement. Et le terme original qui est utilisé dans l'Exode, il peut désigner un messager humain ou un ange. Et dans le contexte de l'Exode, avec la colonne de feu et la traversée du désert, ça pointe clairement vers une présence angélique divine. Mais des siècles plus tard, quand Ésaïe et Malachie reprennent cette même promesse, ils la transforment pour parler d'un messager humain.
Un genre de précurseur.
Voilà, un précurseur qui préparera, cette fois-ci, le retour triomphal de Dieu vers son peuple. Donc, Marc ne se trompe pas du tout d'auteur. Il fait que remonter la piste. Il suit le fil conducteur qui a été tracé par Malachie, ce fil qui menait à Ésaïe et qui trouvait sa source originale dans l'Exode. Il fusionne ces textes parce qu'ils appartiennent à la même veine prophétique.
Mais c'est dingue, c'est l'équivalent antique de naviguer sur Wikipédia en fait. Tu vois, on lit un article sur l'évangile de Marc, on clique sur le mot « messager », bim, ça nous ouvre un onglet vers le livre de Malachie. Dans l'onglet « Malachie », on clique sur « préparer le chemin », paf, ça ouvre l'onglet « Ésaïe ». Et dans Ésaïe, un dernier clic nous ramène à l'Exode.
C'est une super métaphore, c'est exactement ça. Tout l'écosystème est interconnecté. Et là où le docteur Harmon apporte une nuance qui est, je trouve, brillante, c'est en expliquant que le contexte vertical, il ne fait pas juste qu'importer une idée du passé. Il allume le contexte horizontal.
C'est-à-dire qu'il active les textes autour ?
Ouais, ce concept d'activation horizontale, il est redoutable. Quand Marc crée cet amalgame entre Malachie et Ésaïe, il importe pas seulement la citation brute, il importe tout l'environnement littéraire de ses phrases. Prenons un exemple concret. Le tout premier mot de l'œuvre de Marc, c'est « évangile », qui signifie « bonne nouvelle ».
Ouais.
D'où vient ce choix de vocabulaire précis ? Eh bien, si on va fouiller dans le contexte horizontal d'Ésaïe 40, juste quelques versets après la fameuse citation sur la voix dans le désert, on tombe sur le verset 9. Et dans la traduction grecque de ce verset, on trouve exactement ce langage, la promesse d'une bonne nouvelle qui doit être proclamée à Sion. Donc le mot de Marc, il n'est pas choisi au hasard, il était caché dans le voisinage immédiat de la citation de l'Ancien Testament.
Ah, c'est génial ! Le contexte horizontal devient une vraie mine d'or. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi avec Malachie, ce truc-là. Parce que le texte de Marc décrit Jean-Baptiste avec, tu sais, des vêtements bizarres. Des poils de chameau, une ceinture de cuir, et il mange des sauterelles.
Oui, le régime sauvage.
Un lecteur moderne, il lit ça, il se dit juste, ok, c'est un détail exotique, le gars est un marginal. Mais si on applique ta règle, et qu'on regarde le contexte horizontal de Malachie, juste un chapitre après la citation utilisée par Marc, Malachie 4 annonce très solennellement que le prophète Élie reviendra avant le jour du Seigneur.
Et devine quoi ?
Eh ben, le vêtement de Jean-Baptiste, avec les poils de chameau et le cuir, c'est la signature vestimentaire exacte d'Élie dans l'Ancien Testament. Donc Marc a même pas besoin de dire explicitement « Eh les gars, Jean-Baptiste, c'est le nouvel Élie ». Juste en citant Malachie, il active l'attente du retour d'Élie et en décrivant le manteau en poils de chameau, il fournit la réponse à cette attente. Franchement, la boucle est bouclée.
C'est de l'orfèvrerie littéraire, c'est clair. Et quand on réalise que des hyperliens activent des contextes entiers de cette manière-là, on est forcé de prendre encore plus de recul. C'est là qu'on commence à voir ce que le spécialiste Gary Schnitger, qui est cité dans l'analyse, appelle les réseaux textuels.
Les réseaux textuels, ouais.
On n'est plus du tout dans le fait de relier deux ou trois versets entre eux pour faire joli. Il s'agit de voir comment un grand thème est tissé, travaillé, à travers des dizaines de textes sur plus d'un millénaire pour former une véritable toile de fond théologique.
Et l'exemple par excellence de ces réseaux dont on parle dans cette session, c'est l'alliance davidique. C'est un concept qui traverse vraiment toute la Bible de long en large. Le cœur du réacteur de ce réseau, il se trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7.
Le moment où Dieu fait sa promesse à David.
C'est ça. Dieu fait une promesse monumentale au roi David. Il lui garantit en gros une lignée royale éternelle. Mais le point crucial, le truc qu'il faut retenir, c'est la formulation de la relation entre Dieu et ce futur descendant de David. Le texte dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ».
Et cette idée d'une relation père-fils entre la divinité et le monarque, c'est le pilier absolu de l'attente messianique. Mais comme on l'a vu, ce fameux 2 Samuel 7, il apparaît pas de nulle part. Il possède ses propres précurseurs dans le contexte vertical.
La fameuse boule de neige qui était plus petite avant.
Oui. Si on remonte jusqu'au livre de la Genèse, tout au début, au chapitre 49, on tombe sur la bénédiction que le patriarche Jacob prononce sur son fils Judas. Jacob prophétise que, je cite, « le sceptre ne s'éloignera pas de Judas et que les peuples vont lui obéir ». Or, David appartient à la tribu de Judas. Donc, le texte de 2 Samuel 7, il se présente clairement comme l'accomplissement royal de cette vieille prophétie de la Genèse.
Donc, la petite boule de neige de la Genèse, elle prend vachement de volume dans 2 Samuel. Et l'avalanche, elle continue dans le livre des psaumes. Le psaume 2, par exemple, c'est un chef-d'œuvre de ce point de vue-là, parce qu'il fusionne consciemment les idées de Genèse 49 et de 2 Samuel 7. Il décrit un roi couronné à qui les nations sont soumises, ce qui résonne avec l'obéissance des peuples de la Genèse, et il reprend textuellement la déclaration divine de 2 Samuel 7 « Tu es mon fils ».
C'est un maillage incroyable, et le réseau s'épaissit encore plus avec le psaume 89. Ce psaume-là, c'est une longue réflexion un peu angoissée sur l'alliance davidique, écrite à une époque où la monarchie semble complètement vaciller, en train de s'effondrer.
Ils étaient en crise, quoi.
Totalement. Et pour rappeler à Dieu ses propres promesses, l'auteur du psaume renforce l'idée de la filiation en introduisant un tout nouveau titre. Dieu promet de faire de ce roi son premier-né, et il précise que ce statut fera de lui le plus élevé des rois de la terre. Donc là, le concept de fils, c'est plus seulement une adoption royale ou un titre honorifique, ça devient une position de suprématie absolue sur le monde entier.
Ce qui nous amène, de manière assez inévitable, au point culminant de tout ce réseau. C'est l'instant où toute cette pression textuelle, accumulée pendant des centaines et des centaines d'années, elle se libère d'un seul coup. Ça se passe dans le Nouveau Testament, lors du fameux récit du baptême de Jésus.
Le climax du réseau.
Voilà, les cieux s'ouvrent, l'esprit descend et une voix se fait entendre depuis le ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Honnêtement, si on ignore complètement l'existence de ces réseaux textuels, on lit cette scène de manière super sentimentale. On se dit « Ah, c'est mignon, c'est juste un moment touchant où un père exprime son affection pour son fils ».
Sauf qu'en replaçant cette phrase exacte dans l'écosystème biblique, la dimension sentimentale, elle laisse place à une véritable détonation théologique. Les mots qui sont prononcés depuis le ciel, ce ne sont pas une simple déclaration d'amour d'un papa, ils sont l'activation simultanée de 2 Samuel 7, du psaume 2 et du psaume 89.
Les trois en même temps.
Ouais, en une seule phrase, la voix affirme « Voici le roi de la lignée de David, voici celui qui porte le sceptre de Juda, le premier-né à qui toutes les nations devront obéissance ». Pour un lecteur de l'Antiquité qui est imprégné de tous ces textes par cœur, c'est un choc sismique, tu vois. Tout le réseau prophétique de l'histoire d'Israël converge vers cet homme qui est en train de sortir de l'eau.
C'est ouf! L'ampleur de cette mécanique est fascinante, mais y a de quoi donner le vertige à n'importe qui. Heureusement, le docteur Harmon prend le soin de préciser une chose super rassurante dans son livre. C'est qu'il est normal de ne pas tout saisir du premier coup.
Ah oui, personne capte tout à la première lecture.
Ouais. Les lecteurs sont pas censés déchiffrer chaque nœud de cette immense toile d'araignée d'un seul regard. Le simple fait de comprendre qu'il y a des textes donneurs, ceux qui fournissent la matière première, et des textes récepteurs, qui les citent et les transforment, Bah, ça permet d'aborder ces documents avec une posture complètement différente.
C'est ça. La méthodologie d'Armand, au fond, elle enseigne avant tout l'humilité littéraire. Elle démontre par A plus B qu'une lecture superficielle ou purement littéraire, ça privera toujours le lecteur de la véritable intention de l'auteur. Les textes anciens, ils ont été conçus pour être médités, pour être revisités et pour révéler leur couche de sens très progressivement.
Et c'est une compétence qui reste cruciale à développer, même pour nous aujourd'hui, hein. Surtout à notre époque où on est inondé d'infos et où tout est sorti de son contexte pour faire des phrases chocs sur les réseaux. Quand on est face à de la littérature complexe, que ce soit de la philo, de l'histoire ou de la théologie, ignorer le contexte horizontal et vertical, c'est s'interdire de comprendre le cœur du message.
Complètement d'accord.
On ne peut pas juste isoler une phrase de son environnement, zapper l'héritage intellectuel sur lequel elle s'appuie, et prétendre avoir saisi l'argument de l'auteur. Du coup, cette analyse des textes bibliques, elle nous offre, je trouve, une leçon magistrale de lecture critique, applicable bien bien au-delà de la théologie.
Ce qui soulève d'ailleurs une dernière piste de réflexion particulièrement audacieuse pour terminer. Le docteur Armon mentionne, un peu en passant, que la suite logique de cette étude explore le concept de la typologie.
La typologie, c'est quoi exactement ?
Eh ben, jusqu'ici, on a observé comment les auteurs anciens utilisaient des mots ou des citations pour construire du sens, tu vois. La typologie, elle franchit un cap supplémentaire. C'est ce qui se passe quand l'auteur utilise des événements historiques entiers ou même des personnages historiques réels comme des espèces de moules pour décrire l'avenir.
Attends, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne sans tomber dans de la pure fiction ?
En fait, le mécanisme de la typologie repose sur la reconnaissance de motifs très récurrents dans la manière dont la divinité agit dans l'histoire. Prenons l'Exode, par exemple. Avec la libération de l'esclavage en Égypte, la traversée miraculeuse de la mer, l'alliance dans le désert. Pour les auteurs bibliques ultérieurs, c'est pas juste un événement figé du passé. C'est le type, le modèle structurel de toute rédemption qui viendra dans le futur.
Donc il recycle le schéma.
Voilà. Quand le prophète Ésaïe annonce le retour des exilés de Babylone des siècles plus tard, il décrit cet événement géopolitique en utilisant le langage de la mer qui s'ouvre et de l'eau qui jaillit dans le désert. Il moule l'événement futur dans la forme familière du passé. Et de la même manière, des figures comme Moïse ou David deviennent des prototypes, des modèles pour des figures à venir.
Waouh ! C'est un changement de paradigme complet. On passe du simple hyperlien textuel à la répétition de l'histoire elle-même comme un véritable argument littéraire.
C'est vertigineux.
Et ça laisse en suspens une question assez folle abordée par ces recherches. À quel moment cette méthode d'interprétation qui utilise l'histoire passée comme une vaste prophétie structurelle de l'avenir reste-t-elle de la pure interprétation littéraire ? Et à quel moment est-ce qu'elle commence à frôler, je dirais, la réécriture philosophique de l'histoire pour forcer, en quelque sorte, les événements du présent à s'emboîter parfaitement dans le réseau du passé ?
C'est une excellente question et c'est un débat qui n'est pas prêt de s'arrêter.
C'est clair. En tout cas, c'est une question fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on entreprend la lecture d'un grand texte fondateur de notre histoire. Merci beaucoup d'avoir exploré tout ça avec moi, c'était vraiment passionnant.
Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça.